Le journal, Aude Raimondi.
Bonsoir. Construire à La Chaux-de-Fonds un bâtiment à plus de 250 millions de francs pour traiter les déchets de l'arc jurassien. À partir de 2030, Vadec Evolution devrait fournir chaleur et électricité à des milliers de personnes. Gloire au terroir, la fête des vendanges lance un village des vignerons. Il mettra à l'honneur les produits régionaux. Il va faire froid cet hiver, la Confédération s'attend à des probables pénuries d'énergie. En sport, Nicolas Lutti et Pauline Roy à quelques coups de pédale du titre. Les deux VTTistes sont en tête du classement de la Raiffeisen Trans avant la dernière étape qui a lieu ce soir au quartier. Nous serons en direct de l'aire de départ dans le point sport. Et météo, pas d'orage prévu ce soir, leur retour dans la région est annoncé pour demain dès le début de l'après-midi. Valoriser à La Chaux-de-Fonds tous les déchets de l'arc jurassien, c'est le projet Vadec Evolution. Il a été présenté ce matin par la société responsable du traitement des ordures en partenariat avec la compagnie énergétique Viteos et le conseil communal de La Chaux-de-Fonds. Le projet consiste à construire d'ici 2030 une usine flambant neuve sur le site actuel de Vadec à la rue de l'Industrie. Une unité d'un coût de 255 millions de francs, capable de fournir 14 000 ménages en chaleur et 20 000 ménages en électricité. C'est aussi une manière de répondre aux futures normes environnementale de la Confédération et le choix du site de La Chaux-de-Fonds s'impose selon Antoine Grandjean, président du conseil d'administration de Vadec.
Quoi qu'il arrive, il faut un nouveau projet. Ce nouveau projet, il peut être que celui-ci, parce que dans l'arc jurassien que nous desservons, la réalisation sur le site de La Chaux-de-Fonds est le seul site qui nous permet de valoriser suffisamment l'énergie pour être accepté par les offices fédéraux. Donc s'il n'y a pas cette solution-là, la solution qui va devoir être étudiée, ça sera probablement une exportation de nos déchets, ce qui est une hérésie, puisque quelque part on veut valoriser plutôt les circuits courts, on a de l'énergie potentielle ici sur place, ça serait assez ridicule de payer pour l'exporter et puis qu'elle bénéficie à des tiers.
Pour exploiter l'énergie thermique produite par l'usine, il va falloir étendre le réseau de chauffage à distance de La Chaux-de-Fonds. Sa taille va plus que tripler d'ici 2040. Josette Frézard, présidente du conseil d'administration de Viteos.
Aujourd'hui, la population vis-à-vis du chauffage à distance est bienveillante et a envie de ça. Nous avons aujourd'hui beaucoup de demandes pour des raccordements au chauffage à distance que nous ne pouvons pas satisfaire parce qu'on n'a plus la capacité. L'usine d'incinération est au bout, celle qui est là. Donc, on complète bien par de l'appoint au gaz, mais ce n'est pas ce que nous souhaitons faire. Donc, c'est une opportunité, une aubaine de pouvoir développer ça. Alors, pour y arriver, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il faut un moment donné, la construire, cette infrastructure et c'est les désagréments. Donc on compte vraiment sur la compréhension de la population, de nos futurs clients et puis aussi de la ville, l'appui de la ville pour nous aider à réaliser tout ça.
Le budget de cette extension du réseau de chauffage à distance de La Chaux-de-Fonds n'est pas encore fixé. Quant au site de Colombier, il sera abandonné. La décision finale de construction de Vadec Evolution doit intervenir en 2024. Redonner une place de choix aux produits du terroir et aux talents de la région, c'est la volonté de la fête des vendanges. Pour la prochaine édition qui se tiendra du 23 au 25 septembre à Neuchâtel, le comité a décidé d'innover en proposant deux nouveautés. La première mettra en avant les artistes locaux avec une scène installée devant le collège Numadro. La deuxième consistera en un village des vignerons sur le haut de la rue du Seillon et mis sur pied par Neuchâtel Vin et Terroir. 17 chalets y seront installés et proposeront des boissons et de la nourriture du terroir. La directrice de Neuchâtel Le Vin et Terroir, Mireille Buller.
Déjà, ça sera un lieu un peu plus tranquille, un peu à l'écart de la fête. Il n'y aura pas de la musique trop forte. Ce village, il sera ouvert jusqu'à 24 heures. Donc, c'est vraiment un lieu pour prendre l'apéritif, pour manger calmement. On aura bien entendu des produits locaux, donc les tripes à la neuchâteloise, fondue raclette, hamburger, tout de la région. Mais également, nous avons trois invités vaudois qui présenteront des spécialités vaudoises. Pour pas, entre guillemets, concurrencer les autres stands, nous avons décidé qu'au village des vignerons seront proposés des vins spéciaux, par exemple les spécialités blanches ou les spécialités rouges. On va pas proposer du chasselas comme dans les autres stands.
Quel était le retour des vignerons par rapport à cette initiative de la fête des vendanges de vin et terroir?
Très bonne, bien entendu. Après, c'est sûr qu'il y avait un petit peu une peur entre est-ce que les vendanges seront finies? Est-ce que cette année, nous pourrons assumer vu la mauvaise récolte que nous avons eue en 2021? Mais dans l'ensemble, ils étaient très positifs. Et puis, je suis contente de savoir qu'on a plus de 6 vignerons qui seront présents au village.
Des propos recueillis par Raphaël Girardin, Neuchâtel Vin et Terroir espère pouvoir élargir ce dispositif ces prochaines années et pourquoi pas, à terme, occuper toute la rue du Seillon. Nouvelle étape dans le projet immobilier de Serrières. Les promoteurs de Tivoli Sud ont déposé une demande d'autorisation de démolir l'ancienne friche industrielle Suchard. Sans opposition, ils auront ensuite un délai de 2 ans pour agir. Ils informent cependant que des rencontres avec les riverains sont organisées au préalable pour discuter des travaux. Il n'y a pas que l'électricité qui pourrait manquer durant l'hiver prochain. Une pénurie dans l'approvisionnement en gaz est possible. Le Conseil fédéral et les entreprises gazières suisses ont tiré la sonnette d'alarme aujourd'hui à Berne. Une task force se prépare au scénario du pire. La Suisse a besoin de 30 tétrawattheures de gaz en hiver. Or, elle n'en produit pas et n'a pas de capacité de stockage. Elle est donc complètement dépendante des pays européens voisins qui stockent pour elle. Et le risque, c'est qu'il manque de gaz partout. Le ministre de l'économie, Guy Parmelin.
Il existe aujourd'hui un risque concret de pénurie de gaz à l'échelle européenne. La Russie, vous le savez, réduit actuellement ses livraisons de gaz. Le remplissage des réservoirs se poursuit, certes, mais il est plus lent que souhaité et il devient de plus en plus probable qu'ils ne pourront pas couvrir les besoins normaux durant l'hiver à venir et que notre consommation de gaz devra donc être réduite. Nous ne sommes pas encore en situation de pénurie. Toutefois, les pays européens tentent déjà de réduire leur consommation afin de permettre le remplissage de leurs réservoirs malgré ces réductions de livraison en provenance de Russie.
Le concept pour éviter la pénurie de gaz est double. Il faut d'une part économiser dans sa consommation de gaz et partout où c'est possible, commuter les installations vers le mazout. Guy Parmelin lance un appel pressant.
Si la quantité de gaz à disposition devait devenir insuffisante, il s'agira dans un premier temps de mobiliser les ménages, les entreprises, les appeler à réduire leur consommation. Parallèlement, les installations bicombustibles devront passer du gaz au mazout. La consommation de l'industrie pourra ainsi être réduite d'environ 20%. Afin de préparer cette éventualité, le Conseil fédéral en appelle d'ores et déjà aux entreprises qui exploitent ce type d'installation. Il faut impérativement, dès aujourd'hui, indépendamment des prix du marché, constituer les réserves de fioul nécessaires pour que les entreprises soient prêtes le moment venu à mettre en œuvre cette mesure, et ceci pour des raisons logistiques.
Le Conseil fédéral est prêt au besoin à contingenter la distribution de gaz, pas pour le chauffage des familles, mais dans tous les autres secteurs. Les finances fédérales retrouvent l'équilibre pour 2023, c'est ce qu'annonce aujourd'hui le Conseil fédéral. Un léger excédent de 300 000 francs se profile pour l'année prochaine. Cet équilibre n'est toutefois dû qu'à une astuce comptable, selon le conseiller fédéral Uli Maurer. Les dépenses pour les réfugiés ukrainiens, estimées à 1,7 milliard de francs, sont comptabilisées au budget extraordinaire. Les pays de l'OTAN réunis au sommet à Madrid vont inviter officiellement la Suède et la Finlande à rejoindre l'Alliance Atlantique. La Turquie a levé hier soir son veto à leur adhésion. Cette décision intervient dans un contexte très tendu en raison de la guerre en Ukraine. Les États-Unis ont par ailleurs annoncé un renforcement de leur positionnement militaire en Europe. On peut aussi voir dans l'adhésion des deux pays nordiques à l'Alliance une sorte de provocation envers Moscou. L'analyse du Neuchâtelois d'adoption Daniel Berger, ancien conseiller du ministre de la Défense Uli Maurer.
C'est une question difficile à répondre. Bien sûr, ça chauffe le risque qu'il y a une guerre. On parle d'une troisième guerre mondiale. Mais pour moi, c'est un jeu d'échecs qui joue aussi l'augmentation de la force réaction rapide de l'OTAN qui va augmenter à 300 000. Actuellement, ils sont 40 000. Ça, c'est vraiment les enjeux qui sont grands. La probabilité qu'il y aurait une troisième guerre mondiale est vraiment là. Moi, je ne comprends pas pourquoi on force maintenant, j'ai dit ça à titre personnel, je ne comprends pas pourquoi maintenant on prend la Finlande aussi dans l'OTAN. Pour moi, c'est une provocation de la Russie. Je ne suis pas pro-russe, mais c'est vraiment une provocation. Personnellement, je suis plutôt un homme de paix. J'aurais dit, bon, on laisse un moment tranquille. Mais ça, c'est le petit Suisse qui se dit ça. Mais au niveau de la Finlande, je comprends. Parce que quand même, les Russes essayent toujours un peu provoquer aussi la Finlande. Au niveau de l'espace aérien, évidemment, c'est clair qu'ils disent qu'on préfère être avec l'OTAN. Comme on trouve aussi beaucoup de sous-marins dans les mers Baltiques, donc tout proche de Gotland, ça c'est l'île qui est devant la Suède. Et là, les Russes provoquent aussi. Donc, vous voyez, c'est un petit peu un jeu. Je te tape dessus, tu me tapes dessus, etc., etc. C'est un petit peu un jeu comme ça qui est très dangereux.
Daniel Berger qui répondait à Sarah Massy.
Il est 18h10.
Sport.
La Raiffeisen Trans 2022 va livrer son verdict. La cinquième et dernière étape de la compétition de VTT se tient ce soir au quartier. Au programme 18 km à parcourir pour les participants dans la vallée de la Brévine. Au classement, Nicolas Lutti et Pauline Roy semblent bien partis pour décrocher la victoire. Guillaume Joly, vous êtes sur place pour suivre cette ultime épreuve de la compétition. Une étape qui se déroulera dans des conditions optimales a priori.
Et oui Aude, la météo est au beau fixe ici pour accueillir les coureurs de cette dernière étape de la Raiffeisen Trans 2022. Le soleil est au rendez-vous et la température est idéale au quartier, à la chaude du milieu, même avec un petit peu de vent. Et pour présenter cette épreuve dans ces conditions estivales, j'ai à mes côtés l'un des organisateurs de la manifestation, Michel Sintz. Bonsoir.
Bonsoir.
Au programme des participants, ce soir 18 km dans la vallée de la Brévine. Et Michel Sintz, il y a eu quelques changements de dernière minute sur ce parcours.
Ouais, effectivement, quand on fait le balisage le jour avant et puis qu'on se retrouve face à des troncs qui ont été coupés par les bûcherons, donc un bon service bûcheronnage a été fait le long du chemin, donc nous avons dû modifier notre parcours et voilà, c'est des choses qui arrivent.
Avec un dénivelé et quand même une difficulté au milieu du parcours.
Oui, une difficulté, il fait quand même un parcours de plus de 17 km pour 500 mètres de dénivelé, donc la difficulté elle est quand même là. Donc non, ça va rouler fort quand même ce soir.
Et puis c'est aussi une édition qui se termine ce soir, Michel Sintz, en tant qu'organisateur. Quel regard vous portez sur ces mercredis soirs du mois de juin qui ont réuni jusqu'ici plus de 500 VTTistes?
Ben voilà, on savait qu'on n'allait pas battre des records, c'est un après-Covid, donc voilà, plus de 500, on est actuellement plus de 560 même d'inscrits. On s'y attendait à un 20% de moins, on y est, c'est en moyenne de toutes les courses. Mais voilà, on se donne 2 ans pour remonter aux chiffres de 2019 et puis on y croit et on frappe tout pour.
Merci beaucoup Michel Sintz. Un mot encore du classement avant cette dernière étape. Nicolas Lutti déjà quintuple, vainqueur de l'épreuve, est tout proche de décrocher le titre pour la 6e fois. Écart encore plus grand du côté des dames avec Pauline Roy, la tenante du titre, qui compte plus de 5 minutes d'avance sur sa dauphine. Alors les leaders conserveront-ils leur rang? Est-ce qu'il reste encore un petit peu de suspense, Michel?
Ah là, le suspense sans dégâts sur le matériel, sans défaut, sans problème, sans crevaison. Je pense que les jeux sont faits, mais voilà, faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi.
En tout cas, réponse d'ici environ 2 heures au quartier, Aude.
Merci beaucoup Guillaume pour ces précisions. Vous allez suivre cette course pour nous. Son départ donc de cette dernière étape de la Raiffeisen Trans 2022 sera donné à 19h20. Et puis Novak Djokovic s'est hissé sans difficulté en 16e de finale du tournoi de tennis de Wimbledon. Le triple tenant du titre a dominé cet après-midi l'Australien Thanasi Kokkinakis 6-1, 6-4, 6-2. Excellente soirée à toutes et à tous.